Stop, c'est parti. Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
You are fake news.
La bonne réponse.
Eh ben j'aime beaucoup quand il est 9h40 sur France Inter, parce que c'est l'instant M qui recommence.
Quand on regarde une série, on sait que ça va se terminer.
Vous voulez me spoiler?
Spoil.
On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouche les oreilles.
Mais d'où croyez-vous que France Télévisions tire sa puissance et sa bonne santé? Des audiences de l'après-midi qui assurent à ces chaînes leur solidité. Moins prestigieuses que les soirées, les après-midi constituent un gros enjeu en réalité. M6 et TF1 ont fait le choix du téléfilm ou du feuilleton qui fidélise. France 2 a misé sur la proximité qui rapproche. Pierre angulaire de cette programmation, ça commence aujourd'hui par Faustine Bollaert, l'animatrice qui a réinjecté dans l'écoute et dans l'empathie une bonne dose de modernité. Et qui décroche un prime time où les célébrités vont se raconter. Décidément, anonymes ou stars, c'est confession, témoignage à tous les étages. Question sur la gestion, voire sur l'exploitation de l'émotion à la télévision.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Est-ce qu'il y a une chanson que votre père ou votre maman vous chantait quand vous étiez petits à tous les deux qui vous réunit?
J'en sais rien, ça j'ai oublié. Il y en a une particulièrement que vous voulez me faire entendre.
Est-ce que vous acceptez que je vous rafraîchisse la mémoire?
Allez-y, rafraîchissez-moi la mémoire.
Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt à replonger vraiment en enfance?
Oh là là là.
On ouvre la grande boîte?
Déjà que la petite, c'était chaud. J'ai peur que la grande, je fasse un infarctus. Allez, on
ça va être énorme.
On ouvre la grande boîte.
Est-ce qu'il est mort, Marc Lavoine? Non.
Non, mais il a été en effet très ému.
Il a le cœur solide, Bonjour Faustine.
Bonjour Sonia, bonjour à tous.
Alors on récapitule, ça commence aujourd'hui avec Monsieur et Madame Tout-le-Monde, c'est chaque jour en début d'après-midi sur France 2 à 13h55, c'est ça,
exactement.
J'ai pas de bêtises. Et demain soir, vendredi sur France 3, c'est la première de la boîte à secrets. On aimerait croire qu'une star est comme n'importe quel quidam devant un joli souvenir, et que pour vous, Faustine Bollaert, c'est un témoignage qu'on recueille comme un autre. Mais non, en fait non, c'est pas possible parce que Marc Lavoine et Lio, vos invités,
et Slimane.
Combien d'années de promo ils ont derrière eux? Combien d'années de promo où la presse leur a fait raconter mille et un souvenirs et encore mille et un souvenirs? Qu'est-ce qu'on ne sait pas de Marc Lavoine? Qu'est-ce qu'on ne sait pas de Lio? Ses mecs, ses chagrins d'amour, ses enfants, ses racines portugaises, sa sœur?
C'est vrai, vous avez raison. Et pourtant, vous allez vraiment découvrir des choses demain. C'est vraiment... Alors, en effet, j'ai l'impression qu'on a obtenu des choses qu'ils n'ont pas sorties pendant ces dizaines d'années que vous venez de décrire. Mmh. Pourquoi? Parce qu'il y a cette mécanique implacable de ces boîtes qu'on va ouvrir, ces boîtes à secrets. Et n'importe qui, peu importe les personnages promos qu'ils se sont créés, parce qu'évidemment, ce sont des bêtes médiatiques.
Hein, ouais, des bêtes médiatiques, des personnages de télévision à part entière.
Donc, moi, je peux vous dire qu'avant Marc Lavoine, j'ai été le voir avant qu'on commence, il était assez froid. Enfin voilà, il en a fait mille. Il était sympa, hein, mais voilà. Et en effet, quand on ouvre cette boîte dans laquelle ils ne savent absolument pas ce qu'il y a, donc c'est vraiment une aventure et un risque qu'ils prennent. C'est rare aujourd'hui des artistes français qui acceptent de donner un chèque en blanc à des producteurs et venir sans savoir ce qu'ils vont vivre et l'expérience qu'ils vont vivre.
Avec l'assurance qu'il n'y a pas de piège, avec l'assurance que c'est bienveillant.
Mais ça, c'est aussi ma marque de fabrique et la marque de fabrique de mes producteurs.
Voilà.
Ça, c'est important. Donc, ils ouvrent cette boîte et ils ont ce moment que j'adore de petite déstabilisation, pardon, ce petit moment hors du temps où on va leur mettre dans la main un souvenir de leur enfance. Et avant d'être Marc Lavoine, il a été un fils, un père,
un copain. On vous fait écouter le résultat. Vos équipes sont tellement en retard sur le montage et le mixage qu'on n'a pas pu tout voir.
Ça y est, c'est fini.
Mais en tout cas, ce qu'on a vu, c'est ça.
C'est des parfums, des odeurs qui vous rappellent des moments heureux. Ça commence bien.
Non, bah, c'est
bien. Mal barré.
Mais non, moi, je suis quelqu'un, je dis merci. Donc, je leur ai dit merci déjà, mais je leur redis ici. Et faut continuer à être comme ça. La vie, elle veut pas que les gens soient gentils.
On était à l'école ensemble et je suis partie et c'est devenu Lio. Et quand je suis revenue la voir, ça faisait bien presque quoi, 12 ans qu'on s'était pas revus.
Lacrymogène, lacrymale.
Non, justement.
Mais qu'est-ce que ça pleure, Faustine?
Alors là, c'est un bout à bout, mais il faut savoir que ce sont des émotions au service d'un contenu. Mm-hmm. Moi, je suis pas là, je suis pas arrivée en me disant je vais les faire pleurer. Je me suis juste dit j'ai envie qu'ils me racontent leur histoire, leur enfance, leur vie un peu différemment. Et donc, on m'a donné comme outil de les faire replonger en enfance à travers ces objets et le fait qu'ils ne soient pas au courant. Et en effet, ça les a saisis. Donc, il y a des moments d'authenticité, des moments de télé qui sont au service quand même d'une histoire parce qu'on va raconter Marc Lavoine, on va raconter Lio et Slimane de façon différente et et donc il y a bout à bout, parce qu'évidemment c'est pas une séquence, c'est vous qui avez mis bout à bout. Ces moments d'émotion où tout d'un coup il lâche prise et on entend une mouche voler, et moi je me dis tiens, on a saisi un vrai moment où ils ont oublié qui ils étaient et ils sont devenus vraiment ces enfants.
Mais c'est la chaîne France 2, c'est la chaîne France 3
de la nostalgie, de l'émotion,
qui met sur la table ce terme d'émotainment, et il est extrêmement intéressant ce terme d'émotainment, qui est un mot valise américain, une sorte de rencontre entre l'émotion et l'entertainment aux États-Unis, c'est-à-dire le business du divertissement. La reine de ça aux États-Unis, c'est Oprah Winfrey, ouais. Évidemment. Elle a tout fait, les anonymes et les célébrités. Peut-être que vous prenez la suite. C'est une vraie question, ces confessions avec émotion obligatoire. On a l'impression que ça envahit un peu tout. Les gens, les kidam, on va en parler avec vous, les stars qui doivent avoir quelque part dans un coin un storytelling pour émouvoir, pour casser la promo. Ça s'invite aussi sur les chaînes info. Je vous fais écouter parce qu'on en a beaucoup parlé la semaine dernière. Luc Besson sur BFM TV, en pleine confession, avec larmes au rendez-vous.
Cette histoire m'a permis de me mettre face à mon mensonge, à moi. Et je pense que... Excusez-moi. Je pense que beaucoup de femmes auraient jeté à la rue leurs hommes. Ma femme est une femme exceptionnelle.
Voilà, ça c'est Luc Besson, producteur et réalisateur de cinéma, accusé par ailleurs de viol. Et donc on a l'impression que cette confession émotion s'invite à tous les étages de la télé, de la même manière qu'elle s'est invitée aussi dans les prétoires, dans les procès, et que ça fait partie finalement de la médiatisation.
Sauf que je crois pas du tout que ça soit fait à dessein. Je pense pas que Luc Besson, quand il a commencé à répondre à cette interview, il s'est dit je vais pleurer. Il a été saisi. Moi je crois pas. Moi je crois pas que ça soit calculé. Comme je pense pas du tout que Marc Lavoine ou mes invités sont arrivés en se disant je vais m'écrouler. Mais c'est vrai qu'en revanche, aujourd'hui, le public est en demande de cette authenticité-là. Ils ont envie de ces moments de vérité-là, et les messages passent plus avec ça. Après, vous me parlez d'émotainment. L'émotion, c'est pas seulement que les larmes. Moi, dans notre émission, on va rire, on va frissonner, mais ça va être au reflet de la vie.
Il y a une palette d'émotions.
Le succès de l'émission de l'après-midi, c'est que parfois on rigole, parfois on pleure, parfois on est sérieux. Et en effet, je pense que le public a envie de ça, a envie des moments où en effet le vernis s'écaille pour entreapercevoir la vérité de quelqu'un. Et moi, quand j'entends ce témoignage de Luc Besson, je suis touchée et je me dis pas.
Et vous y croyez ?
Ben moi, j'y crois. Vous y croyez pas, vous ?
Non, j'ai l'impression que c'est de la stratégie de communication.
Alors vous êtes beaucoup plus cynique que moi.
Non. Mais c'est non, intéressant mais c'est de confronter c'est les différences de perception.
Moi, j'y crois.
Donc vous, l'idée qu'on va pleurer sur votre plateau, que ça va faire pleurer dans les chaumières. C'est jamais un critère quand vous choisissez un témoin de l'après-midi, parce qu'il arrive souvent qu'on pleure l'après-midi dans Ça commence aujourd'hui.
Oui, mais moi j'ai pas du tout envie qu'on pleure dès le début. Parfois je refuse des témoignages parce que je sais que les gens sont trop à fleur de peau, et je pense qu'une émotion elle ne
parfois
peut se partager.
Parfois vous refusez justement pour ça le
non,
témoignage.
Non, mais je demande à ce qu'on coupe si je vois que la personne a pleuré dès le départ. Je dis non, en fait, il faut pas. En fait, il faut absolument qu'on comprenne la psychologie de cet invité qui fait que tous les gens vont se reconnaître dans ce qu'il raconte, et à un moment on va s'émouvoir mais tous ensemble. Vous dites pleurer dans les chaumières. Moi je dis même ce terme finalement est un petit peu
dénigrant et un peu méprisant.
Exactement, méprisant. Ouais. Alors que moi, je dis non, ils ont été saisis d'une émotion et il y a une larme qui a coulé et on l'a partagée et on a
d'ailleurs,
pleuré
ensemble.
D'ailleurs,
on va vous faire écouter un extrait où vous refusez l'émotion, précisément.
C'est important pour vous, Florence, d'être là.
Oui.
Pour lui dire quoi à votre fils ?
Bah, écoutez, déjà, je suis très émue d'être auprès de lui pour partager ce moment.
Oui.
Pardon.
C'est normal. Prenez votre temps.
Voilà, et ça, écoutez, on vous fait écouter parce qu'on va voir que vous êtes dans des registres très différents. C'est ça qui est intéressant dans votre façon de gérer l'émotion de vos témoins.
Ce bébé qui n'est plus, pour moi, ça a servi à quelque chose. Il y a toujours une leçon positive à tirer de ce qui se passe. C'est jamais un échec.
Vous êtes hyper courageuse, moi je suis impressionnée.
Merci.
Et on va toutes pleurer.
Oui, moi aussi, alors on arrête.
Et là, c'est Faustine Bollard qui dit, bah moi aussi, alors on arrête. Quand est-ce qu'on arrête ? Quand est-ce qu'on dit « allez-y, lâchez tout, voici un mouchoir » ?
Quand c'est gratuit et quand c'est pathos. Voilà. Moi, je refuse les larmes gratuites. Je refuse les gens qui viennent juste s'appesantir sur leur sort. Moi, je ne suis là que pour faire passer des messages et qu'on avance ensemble. Donc, si les larmes font partie du chemin, ça m'intéresse. Si les larmes sont le but et la finition, ça n'a pas d'intérêt. Mon émission, l'après-midi, vous verrez, il n'y a jamais d'émissions qui sont stériles. On passe par les larmes pour avancer, pour réfléchir ensemble à de la manière dont on peut se sortir. Mais c'est pour ça que des émissions... C'est juste
c'est très
mon mari est mort. So what, quoi.
So what.
So what, quoi.
So what.
Donc moi, c'est juste mon mari est mort, c'est la résilience et j'ai réussi à m'en sortir pour après me réouvrir à l'amour, me réouvrir à ma famille. Quand c'est un passage, ça m'intéresse.
Quand et quand vous utilisez tout le temps le terme passé, passage, et c'est intéressant parce que vous êtes une passeuse. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant, c'est que c'est sans doute ce qui fait la différence entre le témoignage face à mon smartphone qu'on retrouve à gogo sur YouTube. C'est-à-dire un témoin seul face à une caméra et donc un récepteur, nous, le public, etc. Vous vous servez d'intermédiaire et d'intermédiation, c'est très important. Alors du coup, nous téléspectateurs, on reçoit le témoignage à travers vos yeux et vos oreilles. Du coup, ce que vous exprimez comme
c'est
émotion
ce que
est
vous
clé,
ressentez.
Est absolument clé.
Et c'est vraiment, j'ai mis du temps à le comprendre ça. Les gens ne viennent pas voir un témoignage, ils viennent voir une rencontre entre ce témoignage et moi. Et moi, en fait, je suis Madame Tout le Monde. Et ils se sont complètement identifiés en moi. Donc quand je pleure, ils sont émus avec moi. Quand je rigole, quand je dédramatise, quand je suis un peu choquée, quand je suis bouleversée. Ils le sont avec moi. Donc en fait, ils se sentent complètement sur ce plateau avec moi et ils se sentent totalement solidaires de mes émotions.
Quand
et ça,
est-ce
j'ai
que
mis
vous
du temps
vous autorisez, Faustine Bollaert, à, comment dire, à exprimer un peu plus de ce que vous êtes et pas seulement un réceptacle à témoignage.
On se souvient
de Jean-Luc Delarue, je rappelle que vous travaillez avec la maison de production que Jean-Luc Delarue avait fondée, donc vous héritez de ce savoir-faire, mais vous héritez pas du tout de sa manière de faire. Hein. Vous faites de manière très différente. Jean-Luc Delarue, qui était assez remuant, parfois, on le sent bouillonnant et il s'imposait une sorte de masque à l'antenne. Il était toujours d'une extrême neutralité. Est-ce que vous, il vous arrive de juger, d'exprimer un agacement, une mise à distance, un recul ou au contraire un vrai geste d'affection?
Alors des gestes d'affection, j'en ai beaucoup et je pense qu'il faut le faire, mais ils sont jamais dictés dans l'oreille. Après, moi, j'ai un amour, ça va faire un peu gnangnan, mais j'ai un amour profond pour les gens. Donc ça m'intéresse en fait. Je suis curieuse. Parfois, je peux vous dire, j'arrive à mes émissions, je sais juste le prénom des gens et vaguement leur histoire. C'est juste qu'en fait, je les écoute, je les aime et je respecte leur histoire. Et je respecte la démarche de venir à l'antenne se mettre à nu, ce qui est une démarche extrêmement courageuse.
Parce que
ça, c'est vraiment compliqué. Donc, en effet, alors il y a des moments, en effet, il y a des gens qui m'agaçouillent comme tout le monde. Mais je le dis à l'antenne. Parfois, je dis, écoutez, vous savez, tous les gens qui me regardent peuvent se dire que franchement, vous êtes un peu gonflé de dire ça. Après, je le dis avec respect parce que ces gens sont venus, on les a pas forcés, mais ils sont venus, ils se mettent en danger devant un million de personnes tous les jours. Donc, la moindre des choses, c'est de les accueillir chez moi avec respect, empathie et compassion.
Alors, justement, ça commence aujourd'hui, existe désormais le matin. Le démarrage, il est un peu difficile. Ça doit pas être très facile de s'installer à la place de Motus, qui était un jeu culte. Même nous, on se demande pourquoi ils ont supprimé Motus et ils ont gardé les amours. Franchement, mais enfin bon, chacun ses goûts. Alors, le principe, c'est que on prend des nouvelles d'un témoin. On vous fait écouter ce que ça donne la plupart du temps la semaine quand votre témoin ne revient pas.
Je suis heureuse de pouvoir vous donner de bonnes nouvelles de Tom et de ses parents aussi. Le petit garçon a fait sa rentrée en CP. Tout se passe à merveille. Il s'est fait de nombreux copains. Il ne subit aucune moquerie. Et on vient de le revoir sur ces images. Vous l'avez compris, Tom est passionné de foot. Et bien après notre émission, il a eu rendez-vous avec le chirurgien qui l'avait opéré des jambes. Et ce dernier l'a autorisé à s'inscrire dans un club de foot.
Alors, c'est dommage parce que c'est beaucoup de recyclage de témoignages froids qui vous allez puiser dans vos archives. Mais c'est aussi un début de réflexion sur l'impact de la télévision, sur la médiatisation. Ça, en fait, pour qu'un témoin vous donne de ses nouvelles et qu'il accepte que vous nous en donniez, il faut qu'il n'ait pas regretté d'avoir témoigné. Souvent, quand une équipe de télé passe après une autre équipe de télé, il découvre des gens qui sont très déçus ou qui sont très furieux d'avoir été coupés, d'avoir été montés, d'avoir été présentés de manière biaisée, d'avoir été poussés à trop parler.
En fait, vous venez de tout dire. C'est que nous, on a 1h05 sur le service public quotidiennement où on est vraiment dans l'épure du témoignage. Donc, en fait, on tourne dans les conditions du direct. C'est-à-dire que je pense que j'enregistre 1h10, 1h12, sauf cas exceptionnel de gens qui ont vraiment besoin de parler. Et dans ce cas-là, je ne vais pas leur couper la parole en leur disant j'ai ce qu'il faut, au revoir madame. Donc, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de coupe. Et donc, je n'ai jamais. La seule chose, la pire des choses qu'on puisse me dire, on a pu me dire, oui, j'ai reçu des témoignages sur Facebook qui n'étaient pas très sympas de gens qui, pour le coup, m'ont jugé alors que vous, vous ne l'avez pas fait. C'est peut-être la pire des choses. Sinon, je n'ai aucun de mes invités aujourd'hui, je peux le dire, qui regrette d'être passé dans cette émission. Parce que c'est
alors, il y a le passage dans l'émission et il y a le fait que les témoignages restent ensuite très longtemps sur YouTube. Ça aussi, personne ne vous dit « enlevez-moi ça, effacez-moi ça, ça me renvoie à ce que j'ai été il y a quelques années ». Non, c'est une vraie question que je vous pose.
Ah non, mais au contraire, je pense qu'ils sont contents parce qu'ils ont le temps de s'exprimer, on leur donne enfin la parole. Moi, le nombre de témoins qui arrivent en disant « je ne sais plus comment parler à ma famille », c'est ma seule tribune d'expression. Les gens qui disent « bah voilà, on me jugeait dans mon village, maintenant qu'on a expliqué ce qui m'est vraiment arrivé et ce que j'ai vraiment vécu, j'ai eu une vague de solidarité que j'ai pris dans la tronche ».
Vous avez des sujets en échec, des sujets en attente, c'est-à-dire des sujets que vous aimeriez traiter et pas de témoins, ou des témoins beaucoup plus difficiles à trouver que d'autres.
Oui, oui, alors ça vous étonnerait, hein. Moi, ça fait très longtemps que je voulais faire j'ai un enfant préféré, ou j'ai un petit enfant préféré. Petit enfant préféré,
c'est
on arrive
comme idée de faire ça.
Ouais, c'est compliqué. Mais alors, à trouver une mère qui dit ah oui, je préfère mon fils, j'ai envie de vous dire, c'est compliqué. En plus, souvent, on a envie de donner la parole à des hommes, donc c'est plus difficile de trouver des hommes qui parlent que des femmes aussi.
Alors, c'est une de mes questions. Ouais. La grande force d'Oprah Winfrey, hein, qui n'est pas baisse de la télé américaine, c'est que toute l'Amérique est venue s'asseoir sur son canapé. Tous les âges, toutes les couleurs de peau, tous les sexes, toutes les catégories sociales. Quand on déroule comme ça vos vidéos, peut-être que je me trompe, hein, mais moi il m'a semblé que c'était pas du tout le cas, ça commence à jouer. Que j'ai été frappée par l'uniformité des visages, que c'est quand même essentiellement des femmes blanches, ni très jeunes, ni très âgées, plutôt issues de la classe moyenne. Non, je me trompe.
Non, vous vous trompez. Alors, ouais. Faut vraiment que je vous envoie toutes les émissions parce qu'il y a
toutes.
Après, ce qui est sûr, ouais, c'est que. Alors ça, c'est une clé que je vais vous dire. Il faut que la personne, en effet, s'exprime bien. Il faut qu'il y ait... Parfois, il y a quelqu'un juste qui va bafouiller.
Ça
ou
veut
qui
dire
va...
que vous les testez.
Mais bien sûr, on leur demande de nous envoyer des tests screen. Tout simplement, pourquoi? Parce que je vais vous dire un truc, c'est moche, hein, mais quelqu'un qui a 4 dents de devant qui lui manquent. En fait, vous n'allez pas l'écouter, vous allez le regarder. Et vous allez passer complètement à côté du message qu'il a envie de passer. Et il y a des tas de moments où on se dit, on ne peut pas prendre cette personne parce que malheureusement, on va trop rester bloqué sur le physique qui va empêcher.
Et il y a l'oralité, c'est-à-dire que gens.
Ça reste de la télévision.
Voilà, on le sait très bien, il y a des gens qui viennent de milieux très simples, qui n'ont pas eu beaucoup d'éducation et qui n'ont pas les mots pour raconter les choses.
Alors, je peux vous dire que des personnes de milieux très simples, on en a absolument tous les jours, des gens qui n'ont pas accès à des psys et qui se disent que grâce à nous, ils vont pouvoir avoir accès à des spécialistes, des gens qui prennent l'avion pour la première fois.
Quand même raconter.
Bien sûr. Et puis, de temps en temps, quand on sent que quand on a vraiment envie de mettre en valeur quelqu'un, je pense à un monsieur de 82 ans que j'ai reçu pour une émission spéciale autour des réfugiés, qui habite à côté de Lamballe, dans les Côtes d'Armor, et qui reçoit aujourd'hui des Albanais, des gens de toutes les régions, qui veut aider à s'intégrer. Il était pratiquement pas audible, on avait du mal à le comprendre. On a sous-titré ce qu'il disait, mais on avait été bouleversés par cette personne qui était d'un milieu très simple, qui arrêtait pas de me dire, je sais pas ce que je fais là. Mais en plus, il était hyper heureux parce qu'il venait pour la première fois à Paris. Donc du coup, on accompagne des histoires de vie, prend le train pour la première fois.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est la façon dont vous alternez des sujets façon Biba, je suis devenue la maîtresse de mon mari, avec des sujets qui sont au cœur du débat public.
C'est la vie, non, Sonia?
C'est sûrement la vie.
Il
n'y
a pas des jours où vous vous levez de façon très légère et vous avez envie de parler que de trucs à la con. Et il y a des jours où vous avez envie de profondeur, des jours où vous avez envie d'engagement.
C'est la façon dont vous vous servez du témoignage de monsieur et madame tout le monde pour vous inscrire dans le débat public, c'est-à-dire des enfants nés de la PMA, des mamans d'enfants qui se sont radicalisés, des policiers en burn-out. Là, vous avez eu des hommes, par exemple. Et c'est intéressant parce que c'est souvent ce qu'on reproche aux médias, c'est-à-dire de traiter des débats de société sans les personnes concernées. On l'a beaucoup dit, vous vous écharpez sur la PMA, vous n'entendez pas les femmes qui ont eu accès à la PMA ou recours à la PMA. Vous vous écharpez sur les femmes voilées, vous n'entendez pas les femmes.
Et moi, je refuse le débat de société. Parce que, par exemple, demain, je vais proposer en direct une émission autour de la PMA pour tous. Et je refuse de rentrer dans la discussion. Je donne la parole à ceux qui l'ont vécu. Et c'est ça la force de cette émission.
C'est-à-dire, le seul contrepoint d'expert, c'est un contrepoint de psy que vous proposez.
Voilà, exactement. Mais moi, je refuse de rentrer dans des émissions politiques, dans des débats politiques, dans des engagements. Même, je leur dis avant. Je leur dis, on n'est pas là pour faire le débat qu'on va faire au JT de 20h. On va là juste pour écouter vos histoires et les gens à la maison, ils vont se faire leur opinion.
Merci beaucoup.
Merci, c'était passionnant. Merci,
maintenant, c'est vous qui êtes passionnante. Passionnante et très, très futée. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup la façon dont vous recueillez ces témoignages.
Merci
à
beaucoup, Sonia.
Voilà, je vous le dis du fond du cœur. Alors, ça commence aujourd'hui. C'est donc tous les jours sur France 2 à 13h55. Et la grande nouveauté, c'est la boîte
secrète. 21h05 sur France 3. Ah non, mais je compte sur vous. Je l'adore, cette émission.
Allez hop, on verra.